Il y a tout juste un mois, en effet, c'est-à-dire mi-novembre 2011, est sorti sur les écrans français Une trop bruyante solitude, un film adapté du roman éponyme de l'écrivain tchèque Bohumil Hrabal, avec dans le rôle principal l'acteur français Philippe Noiret. Le film n'est pourtant pas une nouveauté en République tchèque, puisqu'il est sorti en 1994 et il est déjà disponible depuis plusieurs années en DVD. Alors pourquoi ce décalage? Cela fait en réalité, bientôt 20 ans que la réalisatrice d'origine tchèque, Věra Kajís, exilée en France depuis 1967, se battait pour récupérer, côté français, les droits de son film, qui était par ailleurs la première coproduction franco-tchèque de l'après-1989. Un combat de toute une vie, comme Věra Kajís le raconte au micro d'un Claire Veluire.
Panorama.
Panorama.
C'est une très longue histoire parce que moi j'avais lu le livre en 1980 et ce texte m'a traversé. Je l'ai lu dans un wagon la nuit. J'allais de Francfort à Rome, j'habitais à Rome à l'époque. Et j'ai lu cette nouvelle, elle m'a traversé comme une sorte d'épée. Elle m'a chauffé l'âme, je trouvais ça tellement extraordinaire. Et quand j'ai fermé le livre, je savais que je ferais un film. J'avais une certitude. Certains gens, quand je racontais cela, prenaient ça pour de l'arrogance. Mais c'était pas, je n'avais pas d'opinion autour de moi-même. Je savais que je ferais de ce texte un film. J'ai attendu, je sais pas, 13 ans pour avoir les droits. Après, nous avons tourné le film. Et puis, malheureusement, le producteur français, nous devions tourner pendant, il me semble, 9 semaines. On a tourné beaucoup moins. Puis, le film était enlevé au montage. Beaucoup de scènes que nous avons tournées n'ont pas été montées. Il a rapatrié le film à Paris. Nous avons fait une version tchèque parce qu'on avait promis à Bohumil Hrabal, on voulait lui faire cadeau pour son anniversaire. Donc, mon producteur m'avait dit, faisons une version provisoire, puis pour que Bohumil Hrabal puisse le voir. On avait peur que se soucie de ce qu'il avait fait d'ailleurs plus tard, mais il en parlait constamment. Donc j'avais accepté un sort de compromis, faire une version, et il m'avait dit toujours, je vais trouver de l'argent, on va finir le montage et tout ça. Et puis j'ai appris un jour que le film passait à la télévision. Donc je téléphonais à Canal+, en disant comment ça se fait, que le film passe à la télévision. Il n'a pas eu la première, et ils me disent, oui, il a eu une première il y a un an, dans un petit cinéma à Versailles. J'étais pas invité, Philippe Noiret n'était pas invité. Donc on ne sait pas si c'était une sorte de, comment je peux dire, combine financière. Ou je n'ai pas compris pourquoi le producteur n'a pas essayé de distribuer le film. J'avais demandé, j'ai essayé de comprendre la situation. Il refusait tous les contacts avec moi. Et puis, la Société des auteurs dramatiques m'a payé l'avocat. Et j'ai récupéré les droits de film en 2003. Droit intellectuel sur le film, mais le producteur ne m'a pas rendu ni le négatif ni rien. Donc j'avais droit de vendre, d'utiliser le film, de le distribuer, mais je n'avais pas le film. Et donc les producteurs tchèques ont perdu beaucoup d'argent à cause de la... Je pense qu'ils n'ont pas été payés par le producteur français entièrement ou totalement. Je ne sais pas dans quelle proportion. Ils étaient très nobles parce qu'ils m'ont... donner des négatifs, mais il me manquait la voix de Noiret. Noiret, entre-temps, est décédé. Et par pur hasard, on a retrouvé une petite cassette où il y avait le mixage, pas tout à fait celui-ci, la version originale. Enfin, donc, si vous voulez, il a fallu une patience et un boulot détective pour le reconstituer. Malheureusement, les chutes de négatifs étaient détruites. Donc, voilà, ce film avait une vie vraiment... difficile.
D'accord, ben justement, on va repartir un peu au début de l'histoire de ce film, vous avez dit que vous avez attendu 13 ans pour avoir les droits d'auteur. Quel était un peu le parcours? Comment vous n'avez pas une formation de cinéaste a priori. Comment on, à partir du moment où on se dit, on lit un livre, on se dit c'est génial, je veux faire un livre. Comment vous avez réussi à mobiliser une équipe, à mobiliser de l'argent, à trouver un acteur, et pas le moindre, puisque c'est Philippe Noiret, etc.
Donc, d'abord, j'avais fait une école de cinéma, hein, une petite école de cinéma en France. Moi, j'ai toujours voulu écrire. Mais bon, comme la langue française n'est pas ma langue maternelle. Et puis, c'est vrai, j'ai une vie, je dis pas difficile, parce que j'avais une vie que j'avais choisie librement. Mais j'avais fait beaucoup de petits boulots, donc mon grand problème, c'était souvent de survivre, comment payer le loyer, comment manger, etc. Donc, où j'étais peut-être pas assez modeste pour écrire, faire tout pour écrire. Enfin bon, donc j'ai vécu d'une manière un petit peu en dents de scie, comme ça, la période faste et moins faste. Et puis j'avais fait une école de cinéma, un peu par hasard, parce que j'étais mariée avec un garçon qui voulait faire une école de cinéma, et il l'a pas fait, donc moi pour le pousser, j'ai essayé de faire le concours, j'ai obtenu une bourse, et j'ai fait une école de cinéma de 2 ans. C'était une école qui n'avait pas beaucoup d'argent, donc il y a un scénario qui était choisi pour tourner, 2 scénarios je crois, qui étaient choisis pour tourner le court-métrage. Et donc, les miennes, donc j'ai réalisé un court-métrage et je voulais faire un film un peu comique, et c'était un tragique total. Donc, je me suis dit, je ne suis pas doué pour la réalisation, et puis j'abandonnais l'idée. Et j'ai travaillé dans le cinéma, j'ai fait beaucoup de choses, la production, l'organisation, le casting, même les costumes, les décors, accessoiristes, la documentaliste, c'était passionnant. Donc j'ai fait beaucoup de choses, j'ai vu comment les films se font, j'ai organisé le tournage de longs métrages en Italie, en Afrique, je suis allé en Inde dans les archives, enfin bon, j'ai vécu quand même beaucoup d'années de mon travail dans le cinéma. Et puis quand en 80 j'ai lu le livre, je savais que je ferais le film comme réalisateur, je ne sais pas pourquoi.
Vous avez contacté directement Boumil Rabal
ou... Boumil Rabal, je lui avais écrit. J'ai lu le livre, je suis arrivé à Rome et j'ai commencé à le traduire en français pour moi. J'ai mis un an. Puis après, j'ai commencé à écrire un scénario. Le premier scénario était en noir et blanc, très philosophique, avec beaucoup de citations, un peu de grands philosophes. Un peu, je crois, prétentieux comme scénario. Et puis, j'ai écrit une deuxième version, une troisième version, et j'écrivais à Boumil Rabal en lui disant que j'aimerais bien adapter une trop brillante solitude, et je ne recevais pas de réponse. Et en 1986, c'est la première fois que j'ai pu rentrer en République tchèque au bout de 19 ans d'exil, j'ai pu rentrer en République tchèque. Et à l'époque, je travaillais avec un cinéaste suédois qui faisait des films publicitaires surtout, mais des très beaux films. C'était une star aux États-Unis, en Allemagne, mais pas typiquement publicitaire, très poétique, très particulier. Je travaillais beaucoup avec lui, je faisais tout, organiser les films, les costumes, les castings, enfin c'était passionnant, j'ai beaucoup appris avec lui, et esthétiquement et au niveau de rigueur du travail. Et à un moment j'en pouvais plus parce qu'on arrêtait, c'était une star et il voulait que je m'occupe de tout. Donc il me donnait les dessins, le storyboard de film, et puis moi j'amenais, j'organisais le tournage toute seule, c'était vraiment, j'en pouvais plus. Et donc j'ai dit je vais arrêter, il faut que je m'occupe d'une trop brillante solitude. Et puis j'ai arrêté de travailler avec lui, et puis je n'avais plus d'argent. Et puis il m'a proposé en juillet 87, me disant écoute je vais travailler à Munich, j'ai fait 3 films pour la télévision allemande, 3 courts films. Est-ce que tu pourrais pas venir faire le décor en Allemagne? Et moi, je dis, je parle pas allemand. Il me dit, ça fait rien, on te donnera une assistante. Enfin, il voulait absolument que je travaille avec lui. Et moi, je me suis dit, ma mère habite à 300 kilomètres de Munich. Je pourrais aller les week-ends quand on travaille pas en République tchèque. Donc, j'ai accepté. Et j'ai téléphoné à ma mère en disant si elle pouvait trouver quelqu'un qui porterait une lettre à Bohumil Hrabal dans ses mains, que je voudrais vraiment, dans ma tête, je me disais maintenant il faut que je me lance, il faut que je combat pour une trouver en solitude. Et ma mère me dit, c'est étrange. Alors je devais travailler de 1er au 21 juillet en Allemagne. Et ma mère m'a dit, c'est étrange, Bohumil Hrabal sera à Františkovy Lázně de 1er au 21 juillet.
Donc c'était le destin, on va dire.
Voilà, et donc je l'ai rencontré. Et c'était très amusant. J'avais très peur de lui parce qu'il était très particulier, très adorable, mais il était un peu, on dit plachy en tchèque, c'est pas tout à fait timide, un peu sauvage à premier abord. Donc quelquefois il agressait par une sorte de timidité, et quand vous le connaissiez, l'être le plus généreux, adorable, vraiment cultivé, formidable. Et donc, je l'ai rencontré, je lui ai dit, je voudrais bien adopter une trouble en solitude. Il me dit, oui, tout le monde voudrait adopter une trouble solitude. Pour qui tu te prends? Moi, je dis, je me prends pour personne, mais j'ai une certitude intérieure que c'est moi qui le ferai parce que j'ai l'impression que, comme si ça m'a été dicté. Il me dit, Heidegger, dictat de Dieu, pareil, moi, ça m'était dicté aussi. Tu m'intéresses. Et il me dit, tiens, je vais te faire des tarots. Il me fait des tarots. Et il me dit, écoute, tu feras le film, il sera beau, mais les droits, je ne peux pas te les donner, je les ai vendus. Alors j'ai appris, il y avait plusieurs réalisateurs avant moi qui ont eu les droits.
Et Menzel aussi?
Et Menzel, il a eu, à la fin, il y avait le István Szabó. Après, il y avait, je ne sais plus, il y en avait plusieurs. Il y avait Evel Chorm, le grand réalisateur tchèque. Et quand Chorm est décédé, Hrabal m'a fait savoir que les droits sont libres, donc je suis arrivé à Prague tout de suite et j'ai dit à Hrabal, qu'est-ce qu'on fait, on signe quelque chose? Ah, je signe rien, tu te débrouilles, tu vas voir mon agent. Donc je vais voir son agent et ils me disent, mais monsieur Hrabal se trompe, c'est pas lui qui a des droits, c'est Barrandov. Parce qu'Eval Chor ne les avait pas en tant que personne, mais en tant que Barrandov. Et Barrandov a commandé le film à Jiří Menzel. Et donc, je suis allé voir Jiří Menzel et je lui ai dit, vous ne ferez pas le film. Il me dit, vous ne m'aimez pas. Je dis, non, c'est pas ça, j'ai une certitude intérieure. Tout le monde me prenait pour une folle. Et puis, je dis, vous allez voir, vous ferez autre chose. Et c'était vrai. À un moment, lui, il a abandonné l'idée de faire le film. Et il m'a beaucoup aidé. Il était extrêmement noble parce que il a demandé en France, avant ses recettes, pour son soldat Chonkin. Et moi, en même temps, j'ai présenté le scénario à l'avance ses recettes pour une trouble en solitude. Alors, la commission, je ne connaissais personne, je ne suis pas du tout, je suis très marginal, je ne suis pas introduit dans le milieu cinéma. Je travaille toujours un petit peu, pas dans le grand cinéma, ce qu'on dit. Et donc les gens de la commission disaient qu'ils aiment beaucoup mon scénario, mais qu'ils ne sont pas sûrs si je serais capable de réaliser un tel film. Et Menzel, j'ai appris ça après, il avait dit, je la connais, je pense qu'elle peut le faire.